Mesdames et messieurs, nous n'allons pas attendre Pierre Bordage, il faut qu'il vienne en prenant la rampe de l'escalier puisqu'il est sur la mezzanine. Et puis il va nous rejoindre, ne nous inquiétons pas. Depuis le début de ces rencontres scientifiques d'Utopial 2009, nous essayons de mener l'enquête sur la question de savoir où se situe éventuellement où se situerait le monde meilleur ou les mondes meilleurs. Nous l'avons approché sous divers angles. Finalement, c'est peut-être notre dernière possibilité de l'examiner avec le sujet de cette table ronde sur les aspects post-humains, l'humain et après. Apparemment, on est en train d'assister véritablement depuis un certain nombre d'années à une convergence entre ce qu'on appelle les NTIC d'un côté et les NBIC de l'autre. Et il s'agit là effectivement des neurosciences, de l'informatique, de la biologie et de la cognition qui demeure le côté le plus peut-être mystérieux et le plus fascinant de l'histoire, puisque ça, c'est le cœur de l'humain. Alors, est-ce qu'on est en train d'aboutir avec cette convergence possible à un stade où il ne va plus être question d'être entièrement humain, mais on va pouvoir faire prospérer l'allocution de post-humain? On va voir. On va le voir avec un certain nombre d'auteurs et de personnes qui sont des spécialistes de la question. Alors, je ne vous présenterai pas Pierre parce que vous le connaissez tous tout à l'heure, mais vous avez sur le dispositif scénique de droite à gauche Walter John Williams, qui est un auteur américain que vous avez eu l'occasion d'entendre déjà. Le dernier ouvrage publié en français chez La Talente, c'est À valeur de monde, où l'on est confronté à de l'intelligence artificielle, des réseaux saturés où on peut pirater votre conscience, enfin, où on peut mourir, mais on peut sauvegarder. Ça devient finalement, la vie devient un jeu vidéo. C'est l'auteur peut-être qu'il vous fallait avoir sur le sujet, d'autant qu'en 1987, il nous produit déjà Câblé, qui est cet univers en marche et qui nous annonce tout ça. 1987, souvenez-vous de ça. Ensuite, vous avez Jean-Marie Beignet, qui est professeur de philosophie à Paris-Sorbonne, qui est membre du Centre de recherche en épistémologie appliquée. C'est un homme qui examine la science sous un angle critique. Quelles seront les origines logiques des sciences? Quelle est la valeur et la portée des sciences? C'est aussi un membre des comités d'éthique du CNRS et de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. C'est surtout l'auteur de Demain, les post-humains. Il est pile poil, si je puis me permettre l'expression, dans notre sujet. Je continue de droite à gauche. Nous avons Rémi Sussan, qui est journaliste spécialisé dans les NTIC. Vous pouvez lire ses chroniques sur Internet Actu, ce que moi, je ne manque pas de faire, parce que vraiment, c'est une source de lait et de miel. Voilà. Pierre Bordage, on le salue. Il collabore également à toute une série de magazines, Technique Art, PC Magazine, Science et Vie High Tech, et j'en oublie. Et en 2006, il nous a sorti un bouquin sur les utopies post-humaines. Donc, il utilise déjà l'allocution et il s'intéresse à cette convergence dont je parlais. Et puis, Gérard Klein, à ma gauche immédiatement, qui est à la fois écrivain et éditeur. Gérard Klein, si on utilisait pour vous le vocabulaire qu'on a utilisé pour Françoise Zerny à l'époque, lorsqu'elle était directrice littéraire de Gallimard, on dirait que vous êtes le pape de la science-fiction française. Gérard Klein dirige la collection de chez Lafon, Robert Lafon, Ailleurs et Demain, qui est la collection française la plus prestigieuse en matière de science-fiction. Et il va dire que je radote parce que je lui ai déjà dit ça hier, mais moi, je vais m'intéresser à sa fameuse nouvelle, hein, « Les virus ne parlent pas », parce qu'au fond, on est dans la mécanique à laquelle on est en train de... qu'on va aborder. Je vais vous en parler un peu plus avant. Et puis après, il y a Pierre Bordage. Bon, merci de nous avoir rejoints. Pierre, vous étiez entre les mains de vos fans. Pour Porteur d'âme, peut-être, c'est moi le roman auquel je vais me référer là dans notre situation et contenu de notre thème, parce que c'est la même réflexion. Hein. C'est au fond, qu'est-ce qu'il y a d'humain en nous et qu'est-ce qu'on peut partager, qu'est-ce qui n'est pas partageable et quelle est la limite au-delà de laquelle, ben, finalement, on n'est plus humain. Voilà. Alors, avec tous ces hommes-là, Moi, je vais commencer par le journaliste parce que j'ai besoin d'un tout petit état des lieux. L'ASF a vite décrit, hein, je disais que c'est en 1987 que Walter John Williams écrit Câblé. On a vite assisté à la prise en main par la science-fiction des convergences. Cette convergence entre la biologie et l'informatique, finalement, elle date de quand selon vous? Et quelles sont les voies qu'elle a empruntées, où est-ce qu'elle en est, et quand est-ce qu'elle va véritablement converger, et là où peut-être l'ensemble des interrogations vont se poser.
Alors effectivement, les auteurs cyberpunk, dont fait partie Walter John Williams, sont traités de cette convergence dès les années 80. Hein. C'est quelque chose d'assez ancien. Le thème du cyborg, dont je n'ai pas vraiment en tête l'origine, mais doit bien dater des années 50 et de l'âge d'or de l'ASF. Je pense que c'était déjà quelque chose qui était déjà présent. Quant au thème du post-humain lui-même, bon, moi je le date des débuts de l'ASF avec Olaf Stapledon, qui a donc écrit une série qui s'appelait Les Derniers et les Premiers, qui ensuite est devenue Le Faiseur d'Étoiles. Et dans Les Derniers et les Premiers, il y a un chapitre qui s'appelle L'Homme refait l'Homme, et qui présente une espèce de machine biologique aussi, qui je crois, a l'aspect d'une tour dans laquelle un cerveau gigantesque, ce ne sont pas des ordinateurs à l'époque, mais ce sont des cerveaux gigantesques dans des tours qui sont les premières créations artificielles. Et toute l'histoire de Stapledon, c'est comment l'homme se recrée lui-même constamment.
Alors, bon, voilà pour l'analyse du journaliste. Vous êtes, allez, on va dire, vous êtes ma référence encyclopédique quand même ici. Et en même temps, vous avez beaucoup œuvré dans le domaine économique, dans l'analyse des évolutions sociales et économiques. Vous êtes, on peut dire que vous êtes prévisionniste quand même, dans l'âme,
prospectiviste.
Bon, prospectiviste.
Plutôt, oui. Je fais de la prévision aussi, mais ce n'est pas la même chose.
Et vous avez vu aussi apparaître toutes ces potentielles convergences. Vous datez ça de quand? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le journaliste? Et puis, en plus, vous avez la qualité d'éditeur, donc vous avez vraiment toutes les encyclopédies sous votre main. Et quand est-ce que ça va converger? Parce que vous avez une réticence en ce qui concerne l'intelligence artificielle, vous.
Ah, c'est plus qu'une réticence, mais
Oui.
je crois, bon, en gros, en ce qui concerne les dates, sauf à rentrer dans les détails, je suis d'accord avec René Susan, en très gros. Alors, je crois qu'il est très important dans le débat que nous allons avoir, de distinguer entre ce qui est de l'ordre de la fiction et de l'histoire de la fiction, et ce qui est de l'ordre, de la science et, de la prospective de la science. Hein, bon, parce que quand, dans la fiction, le post-humain prend la forme du prend une forme de la forme prend la forme de l'intelligence artificielle, ce que Werner Vinge a appelé la singularité, par exemple, enfin, je vais brièvement exposer, à moins que Besnier préfère le faire, donc j'y vais. Bon, d'accord. Dans l'ordre de la fiction, c'est parfaitement recevable, de même que les déplacements interstellaires, voire à des vitesses supraluminiques, de même que les histoires de machines à voyager dans le temps. Dans l'ordre
de la
de la
réalité, c'est tout
réalité
autre chose.
scientifique, c'est franchement une autre paire de manches. Alors, qu'est-ce que la singularité, très brièvement? Ce n'est pas tout à fait Werner Vinge, qui est lui-même un enseignant d'informatique, ou qui l'était, puisqu'il est maintenant à la retraite aux États-Unis. Qui a inventé la chose, mais je crois que c'est lui qui lui a donné son nom. L'idée est la suivante: dans les 20 ou 30 années à venir, nous serons capables de créer une intelligence artificielle. Bon. Et à partir de ce moment-là, cette intelligence artificielle se développera elle-même, s'auto-développera de façon exponentielle. Si bien qu'en tant qu'être humain biologique, nous serons complètement largués et nous aurons atteint et dépassé, enfin, un point de singularité, quelque chose au-delà de quoi on ne peut rien dire de l'avenir. Alors, dans la fiction, ok, très bien. Dans la réalité, je n'y crois pas une seconde, parce que je pense que le programme d'intelligence artificielle qui existe depuis à peu près 60 ans n'a tenu aucune de ses promesses. Il n'a pas commencé même à les tenir. Donc, Vinge, à mon sentiment, est là-dessus en assez profond accord avec moi.
Alors, Jean-Michel Besnier, justement, vous êtes philosophe, vous attachez beaucoup d'intérêt aux signes qui font sens. Est-ce que véritablement cette singularité, ce point de bascule, il se situe là? Et est-ce qu'on l'a atteint ou pas?
Bon, là, je serais quand même d'accord avec Gérard Klein pour dire que de la fiction à la réalité, il y a évidemment un monde. Mais malgré tout, je serais plus confiant que lui dans les vertus de cette intelligence, disons, non biologique. Je vais prendre juste une anecdote. Moi, j'ai été, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'avais été inquiété par l'annonce qui avait été faite il n'y a pas très longtemps par la NASA concernant le petit robot, l'un des deux robots qu'on trouve sur Mars actuellement, un petit robot qui s'appelle Spirit. Hein, et Spirit ne répondait plus, ou plutôt Spirit n'en faisait qu'à sa tête. Hein, et on se posait vraiment des questions.
C'était un spirit libre, un esprit libre.
Pardon ?
C'était un esprit libre.
C'était un esprit libre. Hein, un esprit libre. Donc, qu'on pouvait encore suivre parce que des caméras le traquaient. Mais en tout cas, il avait pris l'initiative. Il avait pris les commandes. Et ça a paru évidemment dérisoire aux esprits forts. Mais si l'on pense en termes purement technologiques, la chose n'est pas si étrange que ça. Ce robot est équipé de dispositifs qui lui permettent d'interagir avec un environnement, et un environnement que les hommes ne connaissent pas, puisque nous ne sommes jamais allés sur Mars. Ce petit robot interagit avec un environnement qui contribue à développer chez lui quelque chose comme une intelligence, puisqu'il développe des comportements adaptés, et adaptés à un environnement qui n'est pas le nôtre.
C'est le cas du robot aspirateur qu'on met dans les maisons maintenant.
Bien sûr, bien entendu. Hein? Sauf que quand il est chez vous, il est dans un environnement qui est le vôtre, que vous maîtrisez,
oui. Hein,
dont vous connaissez les aspérités, etc.
Donc on comprend pourquoi il s'arrête et pourquoi il repart.
Oui.
Et donc, là, on comprend pas.
Donc l'idée, parce que bon, Rémi évoquait le cyborg, hein, il faut se souvenir que quand même le mot cyborg a été inventé en 1960 par Klein dans le contexte de la conquête de l'espace. C'est également donc à la NASA hein, qu'on a inventé ce terme. Et le cyborg, ça désignait très simplement hein, le couplage que l'on a dû effectuer entre l'organisme vivant, celui du cosmonaute, et les dispositifs qui fonctionnent selon des procédés cybernétiques qui permettent au cosmonaute d'interagir précisément avec son environnement et un environnement sans pesanteur. Donc la cyborgisation de l'homme qui commence dès lors qu'on le couple avec des dispositifs techniques capables d'autorégulation, bon, ça remonte à loin. Et la miniaturisation aidant aujourd'hui, on se dit que cette cyborgisation, elle pourra bien continuer.
Donc vous êtes en train de nous dire, et vous avez écrit le livre qui le signifie, qui le manifeste, qu'on est sur le point de bascule.
Basculer, je ne sais pas, je crois non, pas mais dans on, la singularité.
On atteint le point de bascule, peut-être.
On pourrait, moi je, pour tout dire, je suis convaincu que dans un avenir très proche, avec la multiplication des objets intelligents et avec l'utilisation à outrance des puces RFID, on s'expose à bien des surprises. Hein, on va être dans des environnements qui vont faire fonctionner des objets entre eux sans nous. Sans nous, on est en train de faire un monde dans lequel nous aurons de moins en moins à agir et nous serons de plus en plus, dans le pire des cas, victimes des objets que nous mettrons en place. Dans le meilleur des cas, nous serons contemplateurs d'un certain nombre de ces objets.
Walter John Williams, quand vous écrivez, quand vous publiez en 1987 Câblé, il y a un certain temps déjà que vous êtes alerté par toute une série d'apparitions, d'inventions, de phénomènes, etc. Expliquez-nous un peu la genèse de ce roman-là. Qu'est-ce qui vous a, à ce point, fasciné, intrigué, intéressé pour que vous en sortiez une histoire, une fiction?
Well, I think the interaction of human beings and machines is firstly, from the point of view of the fiction writer, a beautiful metaphor for our future. The notion that you can take a machine and actually insert it into your mind and control it, or vice versa, is a beautiful metaphor for our world today. That we are intimately connected with our machines in many ways, perhaps not physically or organically the way I envisioned in the book. I think it's easier to imagine a far future in which these things take place, in which you have bodies that are created for specific purposes in specific environments, in which you have a vast machine intelligences capable of great profound thought. It's a little harder to think of how that is, this is going to work in the near future. I'm not really a believer in the singularity. I think that in order to reach infinite machine intelligence, you will also need infinite energy and infinite funding, and I don't see that we have that yet. But I think that if you take the materialist position and you assume that human intelligence is reducible to some basic number of zeros and ones or some other code that can be decoded, I don't see why it would not be possible to reproduce this in some kind of machine or electronic analog. I think the danger is that as soon as you do this, your artificial intelligence is going to go mad because the stimulus that we'll be receiving is so different from what a human mind receives. I think artificial intelligence is very possible. It's even plausible. It may even spontaneously generate the way that Werner Vinci suggests. But if it does, I'm not sure it will have anything to say to us. I think it may have no more knowledge of us, no more comprehension of our existence than we have of the mitochondria in our own cells.
Alors, avant d'aller vers vous, je voudrais revenir vers Rémi Soussan. Finalement, ce que vient de dire Walter John, là, c'est au fond, ça peut se mettre en un système binaire, la cognition, l'intelligence. Où est-ce qu'on en est très précisément de cette évolution-là? Est-ce qu'on est en train de se heurter en permanence à un mur? Est-ce qu'on est devant le mystère que j'indiquais tout à l'heure ou pas?
Alors effectivement, c'est un avis personnel et beaucoup de chercheurs ne seraient pas en accord avec moi, mais je rejoins assez Gérard Klein et Jean-Michel Beignet. Moi, ce que j'ai vu en intelligence artificielle ces derniers temps m'a absolument pas convaincu. Hein. C'est pas du tout quelque chose. J'ai effectivement l'impression que depuis 1956, qui est l'époque où on a créé le mot, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y avait à l'époque un psychanalyste virtuel qui s'appelait Elisa, qui était censé...
On a parlé de système expert beaucoup.
Voilà,
là.
Bon, ça marche, mais c'est pas quelque chose... Disons que ce qu'on attend, il faut être clair, c'est pas l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence, c'est très dur à définir. Ça serait la conscience artificielle. Ça serait une machine qui arrive à la conscience d'elle-même. Ça, on n'en a absolument pas la moindre idée. Je suis personnellement pas du tout opposé métaphysiquement à l'idée, mais on ne sait pas comment faire. Hein, ça, c'est quelque chose. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que si on commence à parler non plus d'intelligence artificielle au sens un peu simple de HAL 9000, c'est-à-dire la machine qui devient intelligente, mais comme un système global, un cyborg, comme disait Jean-Michel, mais un cyborg au sens abstrait du terme, c'est-à-dire une connexion entre l'homme, la machine et le réseau, on peut dire nous sommes déjà aujourd'hui dans un monde où l'intelligence est distribuée, où l'information est distribuée, où des processus mentaux naissent de façon quasiment indépendante sur le net, ce qui devient très très difficile à comprendre. Et le gros problème, c'est est-ce que les théoriciens de l'intelligence artificielle, qui donc dataient de la fin des années 50, voient et réfléchissent effectivement au fait que peut-être que ce qu'on appelle la vraie intelligence artificielle, c'est pas un robot intelligent, c'est pas un ordinateur intelligent, c'est effectivement ce qui se passe dès aujourd'hui avec les systèmes de Web 2, les systèmes de partage d'informations, etc. Et quant à et d'ailleurs la notion de singularité, c'est pareil. Il y a une notion, je dirais très très littérale de la singularité. Une intelligence supérieure va venir et elle va nous supplanter. Et puis, il y a l'idée, comme dit Alan Moore, qui est un auteur de BD qui, je crois, est représenté ici dans ses albums, que la densité d'informations de notre monde est devenue telle que nous sommes rentrés dans une civilisation à l'état gazeux. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus de linéarité historique et que la singularité, nous sommes aujourd'hui en plein dedans. Et dans ce cas, la singularité devient une métaphore intéressante, effectivement, de ce qui se passe.
Alors, en même temps, on a deux métaphores, là. Deux métaphores, ça permet de faire des récits et des fictions, mais ça ne permet pas de faire une réalité. Et d'ailleurs, c'est à côté de la réalité, c'est porté à côté, n'est-ce pas? Porté à côté de la réalité.
Alors, il y a quelqu'un qui a écrit un texte très intéressant, c'est Marc Pécheux, qui est l'inventeur de la... d'un format de fichier qui s'appelle le VRML. Donc vous voyez qu'on est vraiment en plein dans la réalité là, c'est-à-dire c'est un format de fichier pour créer de la réalité virtuelle, qui a écrit un livre qui s'appelle « La science-fiction comme laboratoire de R&D pour la technologie ». Et effectivement, n'oubliez pas que ces gens qui travaillent sur la singularité, sur l'intelligence artificielle, etc., souvent ils fabriquent des systèmes, souvent ils fabriquent des technologies. Et c'est une métaphore, mais ce n'est pas seulement une métaphore pour faire du roman, c'est aussi une métaphore pour faire de la recherche. C'est aussi, par exemple, bon, je prends toujours l'exemple classique de l'uploading, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse télécharger le cerveau dans la machine, ça paraît très fictif. Mais le live logging, qui consiste à enregistrer l'ensemble de sa vie via webcam et via tout un ensemble de capteurs sur ordinateur, c'est déjà là.
Oui, mais c'est parfaitement incomplet, c'est très lacunaire.
C'est juste un projet qui cherche à se réaliser.
Alors, Gérard Klein, vous vouliez réagir.
Je voulais réagir à ce que disait Walter John Williams en indiquant que dans une série de trois romans qui viennent de paraître ou qui sont en cours de parution, l'écrivain canadien-britannique Robert Sawyer décrit, c'est un roman de fiction, l'émergence d'une intelligence artificielle à partir du web, à partir de la toile, et à la suite de toute une série d'incidents ou d'accidents très particuliers et très, très intéressants. Il a découpé ça en trois romans. Je publierai le premier en février. J'ai lu le second. J'attends le troisième avec impatience, qui s'appelle Wake, Watch et Wonder, ce que nous allons rendre en français par éveil, veille et merveille. Donc, c'est alors la question que posait Walter James Williams, celle de la communication avec les humains, est directement abordée et traitée de façon un peu trop optimiste par rapport à la réalité, mais dans ce roman. Donc, en quelque sorte, ça correspond tout à fait à la suggestion qui a été faite par mon éminent collègue.
Alors, vous voulez répondre à ça, Walter John? Non.
The necessity for a writer to reduce his ideas to concepts that will work in fiction is one of the things that we have to consider here. That if I create an enigmatic object and my narrator cannot interrogate that object and cannot engage in a dialect with it, then it's less satisfying from the fictional point of view. But on the other hand, this temptation, certainly should be resisted in some cases at least, that enigmas should remain enigmas. I've engaged in several discussions with biologists and so on about the sort of life that could possibly exist on, say, the moons of Saturn. While I might admire this form of life, and while if I travel to the moons of Saturn, I might enjoy this experience, it's nevertheless not going to be a form of life that I can interact with. So there's a limitation as to how far I can use it for the fictional process. That's why in science fiction we are always finding strange mineral formations that can somehow talk to human beings, and enormous internet-sized artificial intelligences that can interact with us. But I'm not sure that the reality would actually support any of that.
Alors, énigme pour énigme, Jean-Michel Besniez, on parle d'intelligence et là on est devant une énigme apparemment. Hein. Comment est-ce qu'on pourrait la définir? Quels seraient ses contours et est-ce qu'il y a quelque chose de là, mais alors après on va se tourner vers Pierre.
Je crois que la position de Gérard Klein, qui est perplexe à l'égard de l'intelligence artificielle, elle tient au fait que longtemps, on a imaginé de réaliser avec l'ordinateur des modèles d'intelligence conceptuelle, c'est-à-dire l'intelligence qui est la plus communément désignée par le mot. Hein. Être intelligent, c'est savoir mobiliser les bons moyens en vue de fin.
C'est relier les choses entre elles.
C'est relier les choses entre elles dans un projet finalisé. Bon, donc longtemps, on a pensé l'intelligence en termes analytiques, en termes de résolution de problèmes. Hein, nous résolvons des problèmes. Et on s'est dit, quand on a voulu faire un ordinateur dit intelligent, on s'est dit, l'ordinateur, il devrait pouvoir résoudre des problèmes et le faire d'ailleurs infiniment mieux que nous parce qu'il a une vitesse de calcul supérieure à la nôtre. Bon, et longtemps, donc, on a désigné cela par l'intelligence artificielle forte. C'est l'époque où on se posait la question, les ordinateurs peuvent-ils penser ou pas, etc. Là, je vous donne acte. La chose, bon, on a accouché un peu d'une souris. On a effectivement de super calculateurs, bien supérieurs aux nôtres, qui permettent aux machines à jouer aux échecs de battre nos champions du monde. Pas de problème, la machine battra maintenant toujours les champions du monde d'échecs.
C'est une stricte affaire de calcul. Là,
c'est une affaire de calcul. Bon. Maintenant, notre intelligence, c'est tout autre chose. Et on s'est mis à penser l'intelligence en termes plus biologiques, plus basiques. On s'est dit, être intelligent, qu'est-ce que c'est pour un organisme ? Eh bien, être intelligent pour un organisme, c'est être capable d'enregistrer les modifications qui interviennent dans un environnement et de déployer des comportements qui permettent de rester en phase avec cet environnement. Ce qui fait qu'une amibe, une mouche, est intelligente de ce point de vue-là. Elle sait donc mobiliser en elle les éléments qui lui permettent d'être conforme aux exigences de son environnement. Donc on a une lecture de l'intelligence beaucoup plus biologique.
Adaptative, donc là voilà, c'est l'adaptation.
C'est maintenir l'équilibre de l'organisme et de l'environnement.
Il y a même du végétal très intelligent, les graminées, quand elles sont approchées par une flamme, projettent leurs graines.
Et l'héliotropisme des soleils, c'est un comportement de ce point de vue-là intelligent.
Notre intelligence est encore autre chose.
Et notre intelligence, c'est d'abord cela. D'abord cela. Ensuite, on s'est dit, l'intelligence, qu'est-ce que c'est ? On s'est tourné vers les psychologues qui observent l'intelligence des enfants, par exemple. Qu'est-ce qui fait que l'intelligence des enfants s'éveille ? Bien, on s'est dit, au fond, l'intelligence humaine, elle commence toujours par l'action. On commence par agir, on commence par manipuler, on commence par faire des expériences, des essais et des erreurs, et on tire. On est capable de tirer profit de l'expérience.
Parce qu'on le garde en mémoire déjà.
Parce qu'on mobilise de la mémoire, on mobilise des schèmes mentaux hein, qui permettent à un moment donné de développer du concept. L'intelligence conceptuelle, c'est le produit de l'activité. Alors ça, on en a tiré des conclusions dans le domaine de la robotique notamment et dans le domaine de ce qu'on appelle la vie artificielle. Parce qu'on n'a pas parlé de la vie artificielle. Mais c'est le continent nouveau qu'on développe aujourd'hui. Faire de la vie artificielle, de ce point de vue-là, c'est réaliser des petits robots, par exemple, qui sont capables d'exécuter simplement des gestes élémentaires. Ils savent avancer, reculer, sauter, contourner. Et simplement, ils ont cette vertu qu'au contact de l'environnement, ils sont capables de complexifier ce comportement sensorimoteur élémentaire.
On va beaucoup plus loin que ça. Maintenant, on a des robots de compagnie qui arrivent du Japon.
Et qui fonctionnent sur cette base-là.
Jusqu'à y compris des robots sexuels.
Voilà. Et cette intelligence-là, qui est une intelligence génétique, évolutive, elle est très conforme à l'intelligence humaine. Hein, et on est capable de plus en plus de la réaliser avec des machines. Et c'est ça qui est troublant.
Mais ça n'est pas encore ça, l'intelligence humaine.
Vous voudriez...
Rémi Soussan nous met sur le... Non, continuez, Jean-Michel. Il nous met sur la piste quand il nous parle de conscience, consciente d'elle-même, alors, la conscience réflexive.
Alors, vous savez, dans le domaine des sciences cognitives, on essaye de comprendre ce qu'est la conscience. On essaie de le faire après 2500 ans de philosophie, où on a essayé de chercher à définir la conscience. Et on est très, très déçus dans le domaine des sciences cognitives, parce qu'au fond, on ne s'accorde que sur une notion... sur une conception de la conscience. On dit, être conscient, pour un organisme, c'est être capable de faire attention à soi. Faire attention à soi. C'est-à-dire avoir cette démarche réflexive sur soi-même. Et de ce point de vue-là, la conscience, elle dépasse largement l'humain. Elle est aussi, là, dans les organismes.
La conscience, c'est être présent au monde dans tous les aspects de la présence.
C'est au contact du monde, être capable de faire ce retour sur soi.
Mais ça n'est que la conscience. Notre conscience, elle est réflexive. Consciente du fait qu'elle est consciente. Elle est capable de s'observer comme conscience.
Absolument. Mais
et les écrivains vont nous expliquer comment ils s'observent comme écrivains. Ça, c'est...
Oui, mais voilà. on voudrait bien que ce soit une différence de nature qu'il y a là, alors que c'est une différence de degré, vraisemblablement.
Alors, Pierre, vous qui avez écrit un roman sur les porteurs d'âme, au fond, c'est une fable philosophique aussi, ça. C'est sur la communication de ce que l'on est en soi, de tout ce qu'on va essayer de cerner sur la question de l'intelligence, de la conscience, etc. Et donc, vous parlez, vous, d'âme, et quelle est cette dimension d'âme, puisque le philosophe épistémologue ne le dit pas. Est-ce que l'écrivain peut le dire, lui ?
En tout cas, il peut l'explorer. C'est déjà
oui, c'est ce qu'il fait.
Je voudrais revenir à quelque chose qui est la post-humanité, finalement, et le fait que j'ai entendu un jour une conférence de Jean-Michel Truong, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Totalement inhumaine », qui était très glaçante, qui était à Poitiers, mais avec sa bonhomie de moine zen et son flegme, qui nous annonçait que c'était la fin de l'humanité, que l'intelligence allait s'organiser de façon différente parce que nous ne sommes pas des supports très très fiables, étant biologiques et condamnés, émotionnels en même temps. Donc l'intelligence choisirait plutôt de s'exprimer dans des supports plus fiables, tels le silicium, etc. Et c'était un peu glaçant. Ce qui nous annonçait carrément, c'est la fin des humains, que les humains n'avaient vraiment pas d'importance, les humains n'étaient pas nécessaires à la vie, et que la vie pouvait très bien se passer des humains. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, et je me suis dit, qu'est-ce que je suis ? Je suis un humain. À qui je m'adresse ? À mes frères humains. Je ne peux pas décrire aux humains ce que c'est qu'une vie extraterrestre. Ça ne les intéresse pas, et puis de toute façon, je serais incapable. Je ne peux pas décrire aux humains ce que c'est qu'une vie artificielle, parce que ça ne m'intéresse pas, et je n'en serais pas capable. Donc, je recherche dans l'humain ce qui me permet de communiquer aux autres humains. Et là, on va retourner aux histoires de conscience, d'âme, etc., qui sont évidemment des explorations. Il n'y a aucune certitude là-dedans. Mais en tant qu'auteur, on jouit d'une certaine une grande liberté, qui n'empêche pas la rigueur d'ailleurs, mais une grande liberté, qui permet de se libérer des systèmes tout faits de pensée et d'explorer des choses différentes. Et pour Porteur d'âme, je me suis dit, personne n'a la même vision de l'univers. Personne. Personne ne peut comprendre l'autre parce que...
Chaque vision est spécifique.
Ouais, chaque regard est différent. Moi, je vois la salle là, la salle me voit et donc on n'a pas le même regard. Gérard Klein est à ma droite là-bas, il voit la salle d'une certaine façon et pas moi. Et cette réflexion m'est venue un jour en regardant le haut du frigo. J'ai trouvé ça assez sale. Donc je suis allé chercher une éponge, j'ai nettoyé le haut du frigo. Et ma femme me dit, qu'est-ce que tu fais ? J'ai dit, je nettoie le haut du frigo, il est sale. Ah bon, il est sale ? Et je me suis mis à sa hauteur, à faire 1m61 et moi 1m86. Et je n'avais plus la vision du haut du frigo. Et ça m'a, et je me suis dit, peut-être que c'est la racine de tous les problèmes humains.
Le point de vue.
Le point de vue, c'est-à-dire tout est entièrement subjectif et on ne peut pas se comprendre. Et en tant qu'auteur, comme j'essaie de m'adresser aux humains, je me suis utilisé le privilège d'auteur pour me glisser dans la peau de quelqu'un d'autre, via des personnages bien sûr, pour explorer le monde de façon différente. Et alors ça présupposait, cette histoire-là, une âme. Donc ça présupposait que le cerveau n'est pas le produit d'une évolution. Qui est à mon avis un système de pensée assez clos et qui conduit à l'extinction de la race humaine, de l'espèce humaine, c'était plutôt une interface qui pouvait évidemment c'est le présupposé du livre, sinon ça ne marche pas, qui pouvait se séparer du corps, et cette interface on la détache et on la projette dans un autre corps pour permettre à des personnages d'explorer l'univers si on a un homme dans un regard féminin, si on a un jeune dans le regard d'un vieux, etc. Et je me dis peut-être que là il y a une vraie piste d'exploration qui va nous changer de l'intelligence artificielle. Je me suis dit aussi, peut-être l'intelligence artificielle, c'est une sorte de béquille parce que nous n'avons pas exploré l'humain, parce que nous ne savons pas ce que c'est que l'humain, parce que...
Peut-être que c'est une façon d'explorer notre intelligence l'humain. Que nous ne comprenons pas.
Comment ?
Peut-être que c'est une façon d'explorer notre intelligence que nous ne comprenons toujours pas.
Exactement, mais... Je pense que pour nous explorer en tant qu'humains et essayer de comprendre ce qu'est l'humain dans toute sa dimension, il faut sortir des systèmes de pensée. C'est ce que je disais tout à l'heure au débat d'avant. Mais il faut sortir des systèmes de pensée pour pouvoir avoir des choses, des humains, une vision neuve. On a toujours une vision qui est complètement conditionnée par des visions évolutives et tout ça. Et la vision évolutive, pour moi, c'est la vision de la destruction.
Alors, moi, j'aimerais bien quand même que vous arriviez à votre propre définition de l'âme, parce que Jean-Michel avançait à petits pas, étape après étape, gravissant les degrés pour nous dire l'intelligence, c'est. Et puis, on n'arrive pas au sommet où on voit la totalité. L'âme, ça doit être encore beaucoup plus compliqué, parce que vous parlez juste du point de vue, mais il y a tous les autres sens qui interfèrent, qui s'ajoutent,
Mais c'est l'idée de l'incarnation, c'est-à-dire,
Oui, bon.
l'âme, c'est très compliqué. Enfin, c'est une définition religieuse, anima, etc. On ne sait pas très bien.
Principe de vie. Principe de vie.
Souffle de vie. Exactement.
Souffle de vie.
Et si on pouvait transférer ce souffle. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ouvrages de science-fiction qui fonctionnent là-dessus. Hein. On garde les données des gens et on les transfère dans notre corps. Et le souffle dans un autre corps, ce qui permet d'épouser, quelque sorte, d'incarner un autre corps et de ressentir ce que ressent l'autre corps. Ben, je ne sais pas si ça marche, hein, je ne l'ai pas tenté.
Non, mais évidemment.
Mais c'est juste un procédé littéraire qui me permet de...
Métaphore
ouais,
possible.
Oui, tout à fait.
Gérard Klein, le référent encyclopédique, votre réaction.
Je voulais réagir à ce que dit Pierre Bordage, parce que quand il a mis en avant les subjectivités, il m'a beaucoup intéressé, parce qu'il y a quelques années déjà, à la rencontre de la sociologie, en particulier de la sociologie de la littérature et de la psychanalyse, j'ai été amené à développer un concept de subjectivité collective qui a fait l'objet d'un essai qui est paru chez Duno dans une collection de psychanalyse, enfin qui sera prochainement, je pense, réédité, ça, c'est pas la question. Mais la subjectivité dans ce système, qui serait beaucoup trop long à exposer ici, n'est pas exclusivement individuelle, personnelle.
Il y a un sujet collectif.
Elle participe aussi, non pas un sujet collectif, une subjectivité collective. Nous en sommes en train, nous sommes en train dans cette salle, ou dans, sur cette estrade, et ou dans la salle, d'en constituer une, avec notre regard subjectif personnel, mais il se passe quelque chose jusqu'à un certain point de commun. Bon, j'arrêterai là. Parce que si je rentre dans le détail, on en a pour quelques heures.
Alors, s'il y a une subjectivité collective, y a-t-il une intelligence collective? Certains le soutiennent avec l'intelligence augmentée.
Je n'appellerai pas ça de l'intelligence.
Est-ce qu'il y a une âme collective?
Je n'appellerai pas ça de l'intelligence, mais ni de l'âme, parce que ce sont des termes que je ne comprends pas bien. Alors, j'essaye de n'utiliser que des mots que je comprends à peu près. En revanche, il y a bien là quelque chose de transhumain. Alors, je vais essayer très, très brièvement d'en donner un exemple de transhumain au sens traditionnel, disons, de l'humanité du terme. Je vais essayer d'en donner un exemple aussi brièvement que possible. En 1967, j'ai été amené à réfléchir sur le cas d'un écrivain de science-fiction qui est bien connu, qui s'appelle Lovecraft, H.P. Lovecraft. Et après avoir travaillé son œuvre, ce qu'on en connaissait à l'époque en France, il m'est apparu quelque chose, probablement à cause de ma formation et de ma pratique d'économiste, c'est que Lovecraft, apparemment à son insu, disait quelque chose de la situation de son groupe social, qui était problématique, de la situation de son groupe social dans la société globale. Bon. Donc, il disait quelque chose qu'a priori, il ne savait pas consciemment, mais qui était...
Une métaphore inconsciente, donc une métaphore inconsciente.
Oui, on peut... Enfin, une métaphore d'origine inconsciente. Hein. Ces nouvelles disent quelque chose sur l'état de son groupe social dans la société de son temps. Et j'ai eu l'occasion, enfin, je ne vais pas m'étendre ici, mais de vérifier sur bien d'autres auteurs et dans d'autres domaines, sur des écoles littéraires entières, qu'il y avait quelque chose qui était intelligible par celui qui adoptait un certain point de vue et qui apparemment dépassait largement la conscience de l'auteur. Et ceci avec une certaine objectivation possible. Je veux dire, ce n'est pas purement un délire de ma part, je l'espère.
Tous les écrivains soutiennent que c'est juste et ils comprennent très bien le mécanisme, je suppose. Alors, messieurs, vous qui avez utilisé et qui avez écrit des ouvrages sur le post-humain, soutenez-nous brièvement, parce que là, le temps commence à nous être compté de plus en plus. Soutenez-nous ce qui me peut arriver. Et puis après, je demanderai à ces trois auteurs, finalement, de fiction, de réagir là-dessus et de faire peut-être un contrepoids ou un contre-pied. Alors, peut-être par vous qui l'avez utilisé la locution le plus tôt.
Alors, ce qui peut arriver, d'après ce que je vois actuellement qui se passe dans le domaine des technologies, ce qui est en train d'exploser, on en parle encore très peu puisque toutes les discussions sur le post-humain tournent autour de la machine et d'une machine, je dirais, à la limite très archaïque, c'est-à-dire en métal avec de l'électronique, du silicium, etc. Or, il se passe actuellement une révolution monstrueuse du côté de la biotechnologie. C'est-à-dire qu'il y a, et il y a une influence d'ailleurs de l'informatique là-dessus, mais une influence au niveau conceptuel. C'est-à-dire qu'on commence à penser en termes de programmation de l'ADN et de programmation des cellules.
Les cartes à puces avec des cellules neuronales de souris, des choses comme
par
ça.
Par exemple, mais ça, c'est pas ce qui est le plus important. Non. Ce qui est le plus intéressant, c'est effectivement l'idée qu'on puisse créer des êtres vivants, pas des chimères forcément de type sphinx, etc., mais des bactéries simplement, ou qu'on peut introduire à l'intérieur de nos cellules des micro-ordinateurs sous forme d'ADN et de protéines. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui est à la fois extrêmement effrayant et extrêmement excitant, selon votre caractère, c'est que le coût actuel des machines de séquençage et de cette synthèse et séquençage qui était très élevé il y a quelques années est en train de s'écrouler ces temps-ci, et que d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, ça devrait être les prix actuels de la micro-informatique.
Alors,
c'est-à-dire que chacun chez soi pourra créer ses êtres vivants.
Mais quel type d'être vivant, pour qu'on soit concret?
Un
petit dinosaure de...
Certains l'imaginent.
De famille.
Freeman Dyson, qui est un astrophysicien très connu, mais qui est aussi un grand commentateur du monde technologique, dit « Demain, il y aura comme il y a des jeux vidéo, il y aura des jeux biologiques où des gamins récupéreront des œufs et créeront et feront des concours à qui créera la plus belle créature. » Bon, ça, c'est peut-être...
Un Tamagotchi qui vivra vraiment, quoi.
Par exemple. Mais ça, c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais par contre, l'idée de bactéries et de systèmes, et alors là, on revient à la notion d'intelligence distribuée, c'est-à-dire des bactéries qui sont bêtes, comme toutes les bactéries, hein, ça n'a pas d'intelligence, mais qui, mises en réseau, seraient capables, dans votre corps, par exemple, de doubler votre système immunitaire ou des choses de ce genre, ça peut être envisagé.
Donc c'est sympa, ça, c'est plutôt positif.
C'est sympa, mais ça peut vous tuer. Hein, c'est, voilà, et le problème, c'est qu'une bactérie dangereuse lâchée dans la nature, bon, je préfère pas revenir sur les conséquences. Mais ceci dit, ça a aussi des côtés positifs. Et ça, c'est intéressant parce que revenir au biologique, parce que effectivement, d'abord, c'est là que se passe aujourd'hui, à mon avis, beaucoup plus de choses que dans la robotique. Bon, ça peut changer l'année prochaine. Hein. Je sais des choses qui vont très très vite. Et aussi, ça implique de nouvelles façons de penser de ce qu'on appelle les systèmes complexes, c'est-à-dire ces systèmes qui sont où justement des comportements sont distribués entre des millions d'acteurs, ce qui fait qu'ils sont imprévisibles et que ça nous demande une nouvelle forme de pensée qu'on a que difficilement aujourd'hui.
Jean-Michel Beignet, on reste dans la vie, ça reste de la vie puisque ça vit. Même si c'est du travail d'apprenti sorcier et de la vie éprouvette.
Ce que décrit Rémy Sussan à travers la biologie synthétique, ce qu'on appelle la biologie synthétique, qui est quand même un courant en biologie qui se développe considérablement et qui mobilise beaucoup de... Bon, c'est quand même, par définition, de la vie faite avec du non-vivant. Hein, on est bien d'accord. Ouais. Donc, c'est de l'artificialisation de la vie. Hein, mais on appellera ça néanmoins de la vie parce que précisément on aura affaire à des entités, hein, pour ne pas dire des organismes, des entités qui seront capables d'émergence, parce que c'est le terme d'émergence finalement qui est important ici, hein. Tout à l'heure on parlait de l'intelligence, l'âme, etc. Souvent aussi on aperçoit l'âme et l'intelligence derrière la faculté de faire émerger quelque chose de nouveau,
de créer.
Voilà, donc avec cette biologie synthétique, on pourrait avoir affaire effectivement avec des entités techniques, artificielles, qui pourraient faire émerger.
Alors, qu'est-ce qui va faire la ligne de partage? Au fond, l'humain, c'est du hasard. Et ce dont on parle du post-humain, c'est un peu de la nécessité de l'humain. Donc c'est la nécessité.
Absolument.
C'est ça la ligne de partage?
On pourrait le dire comme cela. Sauf que même... Bon, oui, d'une certaine façon, on entre dans l'artefactuel. Donc l'artefactuel, c'est-à-dire le programmé, le délibéré. Hein. Donc on a l'ambition de maîtriser l'origine des choses. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose que de dire qu'un être humain est le produit du hasard de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovocyte, hein, et de dire que l'entité nouvelle qu'on obtiendra dans notre environnement sera le produit d'une science, d'une technologie extrêmement élaborée et d'une décision technique.
Ça vous inquiète, vous, le post-humain, ou vous vous dites on va aussi inventer les valeurs qui vont aller avec, la société qui va aller avec, et au fond, tout ça, c'est de l'humanité étendue ou augmentée ou améliorée.
De ce point de vue-là, je trouve qu'il y a un défi, un beau défi, un défi qui est de l'ordre du moral et de l'éthique, à savoir que dans un avenir proche, nous aurons vraisemblablement à coexister avec... Des êtres qui ne seront pas des êtres de hasard comme nous le sommes, nous, avec des êtres qui seront le produit de notre maîtrise ou quelquefois de notre immaîtrise technologique. Donc nous allons avoir affaire à une humanité élargie. Il nous faudra sans doute, dans quelques années, vivre avec des êtres qui auront été clonés, où il nous faudra vivre avec des êtres qui intégreront dans leurs anatomies des dispositifs cybernétiques en nombre et en densité telle qu'on pourra se demander s'ils sont plus biologiques ou plus purement techniques. Il y aura sans doute une question de biodiversité nouvelle. Il est possible que l'humanité doive intégrer dans son orbe des robots androïdes qui sécréteront en nous des sentiments, voire de l'empathie, d'une manière qu'on n'imagine pas encore, parce que quand on songe aux robots, on songe à des espèces de machines à laver super sophistiquées. Il y aura peut-être davantage que cela.
Alors, Walter John Williams, vous avez écrit un roman dont le titre m'échappe sur le moment, et je ne le retrouve pas dans mes notes, qui parle de l'ennui des gens qui sont éternels. Vous avez ce thème-là dans un de vos romans. Et est-ce que le post-humain, c'est pas ça, finalement ? Il y a une part d'éternité qui est en train de cheminer là et qui va nous ennuyer profondément. Parce qu'au fond, ce qui est drôle, c'est le hasard.
Well, those particular immortals had a problem with their memory system, so that when they had an artificially enhanced memory, and so when their memories filled up, essentially they were unable to absorb new experience. I think the only sort of useful immortality to achieve would be the sort of immortality that does allow you to take new experiences, to begin your life again. To move to another place to have more experience. My friend and colleague Roger Zelazny wrote about this a good deal. Many of his protagonists were immortal in one sense or another, and essentially he viewed life as if they were jewels on a necklace. And you go to one and you appreciate it as much as you can, and you absorb it and you learn what you can, and then you move to the next jewel, and you can continue this for an infinite process. And personally, I hope to experience that myself.
D'accord. Est-ce que ce que vous avez entendu des prévisions possibles ou de la prospective possible vous inspire des thèmes de romans, des idées de romans?
Pardon me, I'm not getting a translation here.
Oui, parce que...
Here it comes.
Moi, j'ai la translation sur le canal 1 en anglais, donc ça ne doit pas coller, ça. Est-ce que vous m'entendez?
Okay, I think within the next generation, we're going to find out whether a human being is reducible. Whether his mind is reducible to some kind of basic form, which can be recapitulated. We'll find out if the genetics are reducible and recapitulatable and recombinable on some kind of artificial means. Once that exists, we have the potential of some kind of personal immortality. If you can reduce your mind to a series of zeros and ones and have this in storage somewhere, as long as the storage doesn't fail and you don't fail, you can go on forever. And so this will inevitably create not just new beings, but new modes of thought. I'm looking forward to experiencing it myself. I think that would be a terrific adventure.
et aussi à la désespérance des éternels. Pierre Bordage, est-ce que tout ça vous paraît une perspective fascinante ou est-ce que vous commencez à ressentir l'ennui des éternels là?
J'ai plein de réflexions. Alors, la première, c'était, je crois qu'on pêche par excès d'optimisme sur l'évolution des sciences, parce que quand on interrogeait Jean en 1970 de la description de l'an 2000, c'était plein de fusées partout et des gens qui voient des voitures volantes et tout. On n'a pas si avancé que ça. Donc, peut-être que ça n'ira pas aussi vite qu'on le croit. La deuxième chose, c'est que on arrive aux outils qui sont les micro-leviers. La puissance génétique, la micro-informatique, qui permettent des évolutions considérables. Donc, par ce biais-là, par le biais de la science, nous avons enfin la baguette de fées qui nous manquait pour nous transformer en immortels et réaliser les vieux rêves, finalement, qui ont été déjà déterrés dans les premiers mythes, qui sont l'immortalité. On a Gilgamesh, roi d'Uruk, qui part à la recherche de l'immortalité. Et il semble qu'on soit arrivé à ça. Enfin, à ça, à cette possibilité-là. Simplement, je crois aussi qu'on, dans notre orgueil immense d'être humain, on sous-estime complètement le hasard et que, par exemple, on croit maîtriser l'atome, on fait des bombes atomiques avec, ça donne du cancer, etc. Qu'est-ce qui va se passer quand on va modifier les gènes ou quand on va intervenir sur les gènes? Quel type? Quel hasard va se mettre en route? Est-ce qu'il n'y aura pas une nouvelle maladie qui va apparaître? Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle forme de destruction qui va apparaître? Qu'est-ce qu'on maîtrise dans cette histoire-là? Rien du tout. Je veux dire, c'est simplement on fait des calculs 0,1, 0,1, 0,1 et on fait des multiplications et tout ça. Mais il y a une autre part de la vie qui est complètement inconnue et je pense nous surprendra tout le temps. Et tant mieux. Heureusement qu'il y a un mystère dans la vie, parce que s'il n'y a pas de mystère, alors si c'est ça, l'éternité sans mystère, c'est absolument détestable, enfin probablement. Et je pense que la grandeur de l'être humain, c'est la mort. C'est sa mortalité. Et je pense que si on va au-delà de cette mortalité, c'est-à-dire que si on gagne l'immortalité, alors je pense qu'on ne sera plus des êtres humains.
Waouh. Gérard Klein, prospectiviste. C'est pas le dernier des Mohicans, mais presque, il n'y a plus beaucoup de prospectivistes. Au fond, c'est l'art de faire le partage entre le possible et le probable, quelque chose comme ça, grossièrement.
La prospective, c'est pas exactement ça. Je dirais que c'est essayer de repérer d'une part des tendances lourdes, oui, et d'autre part des lieux où il peut y avoir des ruptures. D'accord. En essayant d'évaluer leurs conséquences. Alors, ceci, même si voilà, ces ruptures sont très peu probables.
Ceci étant posé, faites donc œuvre de prospectiviste s'agissant de la post-humanité. Qu'est-ce que vous nous en diriez de concis et de définitif?
Alors, je pense avec René Susson que c'est dans le domaine de que c'est dans le domaine de la biologie, de la biogénétique, de l'anthropotechnie, ce que certains philosophes appellent l'anthropotechnie, que les plus grandes promesses et également, je ne le cache pas, les plus grands risques se profilent. Entrer dans le détail, ça serait une autre paire de manches, d'autant que j'ai oublié ma boule de cristal.
Très bien. Alors, puisqu'on ne va pas pouvoir parler avec la salle, je voudrais qu'on ait une conclusion de philosophe. Ça serait quand même plutôt bienvenu. Moi, je me demande, au fond, la post-humanité pourrait résulter du fait qu'on a voulu améliorer l'humain. Mais est-ce qu'il n'y a pas des degrés d'amélioration de l'humain qui nous donne encore comme une perspective la stricte humanité dans sa totale plénitude? Jean-Michel Beignet.
Oui, c'est un peu plus que cela, parce que c'est pas simplement améliorer l'humanité. S'il ne s'agissait que d'améliorer l'humanité, on serait dans ce qui est fondamental à la science moderne, hein, qui a voulu cela depuis le XVIIe siècle. Non, on a voulu l'augmenter. L'augmenter, c'est plutôt ce terme-là, et l'augmenter de telle sorte qu'elle réfute ce qui est fondamentalement la condition humaine. Augmenter l'humanité de telle sorte
qu'elle domine la nature.
Nous ne soyons plus obligés de naître, nous ne soyons plus obligés d'être malades et de souffrir, et nous ne soyons plus obligés de mourir. Donc je donne acte complètement à Pierre que ce à quoi nous aspirons, c'est à en finir avec l'humanité. Hein, et la post-humanité, c'est aussi cela que ça signifie. Alors, bon, comment réagir? Ben, il faut être clair. Réagir contre cela, ce serait essayer de se réconcilier avec l'humanité. Se réconcilier avec la souffrance, se réconcilier avec la mort. Retrouver la mort aimable. Sommes-nous capables de le faire? Voilà le problème fondamental. Mais le problème métaphysique, il est là. Retrouver les vertus de vulnérabilité. Je pense à l'exemple d'Oscar Pistorius, cet athlète sud-africain qui voulait concourir aux Jeux Olympiques avec des prothèses électroniques. Bon, il représentait l'humanité augmentée. L'humanité augmentée qui a effrayé le comité olympique qui lui a refusé en un premier temps le droit de concourir avec les autres. Comme si le comité olympique avait cette espèce d'intuition que si on ouvrait la porte comme ça à des cyborgs dans les stades des Jeux olympiques, alors on en finissait avec l'idée même de l'humanité. Rester attaché à l'humanité, c'est préserver la souffrance de l'athlète, préserver, au fond, tout ce qui fait notre fragilité.
En trois mots.
En trois mots. Non, dans le cas des prothèses dont tu parles, il ne s'agit pas de prothèses électroniques, mais strictement mécaniques. Bon, il y en a simplement le...
Alors, merci de cette notule. Simplement, ce que je vais vous souhaiter, c'est conserver votre vulnérabilité. Alors, point trop d'infos, conservez-la. Soyons humains. Merci beaucoup. Applaudissez-les, s'il vous plaît.